Chapitre 15. Les marais de la Baraba. Il était heureux que Michel Strogoff eût si brusquement quitté le relais. Les ordres d'Ivan Ogareff avaient été aussitôt transmis à toutes les issues de la ville et son signalement envoyé à tous les chefs de poste afin qu'il ne pût sortir d'Omsk. Mais à ce moment, il avait déjà franchi une des brèches de l'enceinte, son cheval courait la steppe et n'ayant pas été immédiatement poursuivi, il devait réussir à s'échapper. C'était le 29 juillet à 8h du soir que Michel Strogoff avait quitté Omsk. Cette ville se trouve à peu près à mi-route de Moscou à Irkoutsk, où il lui fallait arriver sous 10 jours s'il voulait devancer les colonnes tartares. Évidemment, le déplorable hasard qu'il avait mis en présence de sa mère avait trahi son incognito. Ivan Ogareff ne pouvait plus ignorer qu'un courrier du tsar venait de passer à Omsk, se dirigeant sur Irkoutsk. Les dépêches que portait ce dernier devaient avoir une importance extrême. Michel Strogoff savait donc que l'on ferait tout pour s'emparer de lui. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait savoir, c'est que Marfa Strogoff était aux mains d'Ivan Ogareff et qu'elle allait payer de sa vie, peut-être, le mouvement qu'elle n'avait pu retenir en se trouvant soudain en présence de son fils. Et il était heureux qu'il l'ignorât. Eût-il pu résister à cette nouvelle épreuve? Michel Strogoff pressait donc son cheval, lui communiquant toute l'impatience fiévreuse qui le dévorait, ne lui demandant qu'une chose, c'était de le porter rapidement jusqu'à un nouveau relais où il pût l'échanger contre un attelage plus rapide. À minuit, il avait franchi 70 verstes et s'arrêtait à la station de Koulikovo, mais là, ainsi qu'il le craignait, il ne trouva ni chevaux, ni voitures. Quelques détachements tartares avaient dépassé la grande route de la steppe. Tout avait été volé ou réquisitionné, soit dans les villages, soit dans les maisons de poste. C'est à peine si Michel Strogoff put obtenir quelque nourriture pour son cheval et pour lui. Il lui importait donc de le ménager, ce cheval, car il ne savait plus quand et comment il pourrait le remplacer. Cependant, voulant mettre le plus grand espace possible entre lui et les cavaliers qu'Ivan Ogareff devait avoir lancés à sa poursuite, il résolut de pousser plus avant. Après 1 heure de repos, il reprit donc sa course à travers la steppe. Jusqu'alors, les circonstances atmosphériques avaient heureusement favorisé le voyage du courrier du tsar. La température était supportable. La nuit, très courte à cette époque, mais éclairée de cette demi-clarté de la lune qui se tamise à travers les nuages, rendait la route praticable. Michel Strogoff allait d'ailleurs en homme sûr de son chemin, sans un doute, sans une hésitation. Malgré les pensées douloureuses qui l'obsédaient, il avait conservé une extrême lucidité d'esprit et marchait à son but, comme si ce but eût été visible à l'horizon. Lorsqu'il s'arrêtait un instant à quelques tournants de la route, c'était pour laisser reprendre haleine à son cheval. Alors, il mettait pied à terre, pour le soulager un instant, puis il posait son oreille sur le sol et écoutait si quelque bruit de galop ne se propageait pas à la surface de la steppe. Quand il n'avait perçu aucun son suspect, il reprenait sa marche en avant. Ah ! Si toute cette contrée sibérienne eût été envahie par la nuit polaire, cette nuit permanente de plusieurs mois, il en était à le désirer, pour la franchir plus sûrement. Le 30 juillet, à 9h du matin, Michel Strogoff dépassait la station de Touroumov et se jetait dans la contrée marécageuse de la Baraba. Là, sur un espace de 300 verstes, les difficultés naturelles pouvaient être extrêmement grandes. Il le savait, mais il savait aussi qu'il les surmonterait quand même. Ces vastes marais de la Baraba, compris du nord au sud entre le 60e et le 52e parallèle, servent de réservoir à toutes les eaux pluviales qui ne trouvent d'écoulement ni vers l'Oby, ni vers l'Irtych. Le sol de cette vaste dépression est entièrement argileux, par conséquent imperméable, de telle sorte que les eaux y séjournent et en font une région très difficile à traverser pendant la saison chaude. Là, cependant, passe la route d'Irkoutsk, et c'est au milieu de mares, d'étangs, de lacs, de marais dont le soleil provoque les exhalaisons malsaines qu'elle se développe, pour la plus grande fatigue et souvent pour le plus grand danger du voyageur. En hiver, lorsque le froid a solidifié tout ce qui est liquide, lorsque la neige a nivelé le sol et condensé les miasmes, les traîneaux peuvent facilement et impunément glisser sur la croûte durcie de la Baraba. Les chasseurs fréquentent assidûment alors la giboyeuse contrée à la poursuite des martres, des ibellines et de ces précieux renards dont la fourrure est si recherchée. Mais pendant l'été, le marais redevient fangeux, pestilentiel, impraticable même lorsque le niveau des eaux est trop élevé. Michel Strogoff lança son cheval au milieu d'une prairie tourbeuse qui ne revêtait plus ce gazon demi-ras de la steppe dont les immenses troupeaux sibériens se nourrissent exclusivement. Ce n'était plus la prairie, sans limite, mais une sorte d'immense taillis de végétaux arborescents. Le gazon s'élevait alors à 5 ou 6 pieds de hauteur. L'herbe avait fait place aux plantes marécageuses auxquelles l'humidité, aidée de la chaleur estivale, donnait des proportions gigantesques. C'était principalement des joncs et des butaumes qui formaient un réseau inextricable, un impénétrable treillis parsemé de 1000 fleurs, remarquables par la vivacité de leurs couleurs, entre lesquelles brillaient des lys et des iris, dont les parfums se mêlaient aux buées chaudes qui s'évaporaient du sol. Michel Strogoff, galopant entre ces taillis de joncs, n'était plus visible des marais qui bordaient la route. Les grandes herbes montaient plus haut que lui, et son passage n'était marqué que par le vol d'innombrables oiseaux aquatiques qui se levaient sur la lisière du chemin et s'éparpillaient par groupes criards dans les profondeurs du ciel. Cependant, la route était nettement tracée. Ici, elle s'allongeait directement entre l'épais fourré des plantes marécageuses. Là, elle contournait les rives sinueuses de vastes étangs dont quelques-uns, mesurant plusieurs verstes de longueur et de largeur, ont mérité le nom de lac. En d'autres endroits, il n'avait pas été possible d'éviter les eaux stagnantes que le chemin traversait, non sur des ponts, mais sur des plateformes branlantes, ballastées d'épaisses couches d'argile et dont les madriers tremblaient comme une planche trop faible jetée au-dessus d'un abîme. Quelques-unes de ces plateformes se prolongeaient sur un espace de 200 à 300 pieds, et plus d'une fois les voyageurs, ou tout au moins les voyageuses des Tarentas, y ont éprouvé un malaise analogue au mal de mer. Michel Strogoff, lui, que le sol fût solide ou qu'il fléchît sous ses pieds, courait toujours sans s'arrêter, sautant les crevasses qui s'ouvraient entre les madriers pourris. Mais si vite qu'ils allassent, le cheval et le cavalier ne purent échapper aux piqûres de ces insectes diptères qui infestent ce pays marécageux. Les voyageurs obligés de traverser la Baraba pendant l'été ont le soin de se munir de masques de crin auxquels se rattache une cotte de mailles en fil de fer très ténue qui leur couvre les épaules. Malgré ces précautions, il en est peu qui ne ressortent de ces marais sans avoir la figure, le cou, les mains criblées de points rouges. L'atmosphère semble y être hérissée de fines aiguilles, et on serait fondé à croire qu'une armure de chevalier ne suffirait pas à protéger contre le dard de ces diptères. C'est là une funeste région que l'homme dispute chèrement aux tipules, aux cousins, aux maringouins, aux thans, et même à des milliards d'insectes microscopiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais si on ne les voit pas, on les sent à leurs intolérables piqûres auxquelles les chasseurs sibériens les plus endurcis n'ont jamais pu se faire. Le cheval de Michel Strogoff, tanné par ces venimeux diptères, bondissait comme si les molettes de 1000 éperons lui fussent entrées dans le flanc. Pris d'une rage folle, il s'emportait, il s'emballait, il franchissait verste sur verste avec la vitesse d'un express, se battant les flancs de sa queue, cherchant, dans la rapidité de sa course, un adoucissement à son supplice. Il fallait être un aussi bon cavalier que Michel Strogoff pour ne pas être désarçonné par les réactions de son cheval, ses arrêts brusques, les sauts qu'il faisait pour échapper à l'aiguillon des diptères. Devenu insensible, pour ainsi dire, à la douleur physique, comme s'il eût été sous l'influence d'une anesthésie permanente, ne vivant plus que par le désir d'arriver à son but, coûte que coûte, il ne voyait qu'une chose dans cette course insensée, c'est que la route fuyait rapidement derrière lui. qui croirait que cette contrée de la Baraba, si malsaine pendant les chaleurs, pût donner asile à une population quelconque. Cela était cependant. Quelques hameaux sibériens apparaissaient de loin en loin entre les joncs gigantesques. Hommes, femmes, enfants, vieillards, revêtus de peaux de bête, la figure recouverte de vessies enduites de poix, faisaient paître de maigres troupeaux de moutons. Mais pour préserver ces animaux de l'atteinte des insectes, ils les tenaient sous le vent de foyers de bois vert qu'ils alimentaient nuit et jour et dont l'âcre fumée se propageait lentement au-dessus de l'immense marécage. Lorsque Michel Strogoff sentait que son cheval, rompu de fatigue, était sur le point de s'abattre, il s'arrêtait à l'un de ces misérables hameaux, et là, oublieux de ses propres fatigues, il frottait lui-même les piqûres du pauvre animal avec de la graisse chaude, selon la coutume sibérienne. Puis il lui donnait une bonne ration de fourrage, et ce n'était qu'après l'avoir bien pansé, bien pourvu, qu'il songeait à lui-même, qu'il réparait ses forces, en mangeant quelques morceaux de pain et de viande, en buvant quelques verres de kvass. Une heure après, 2 heures au plus, il reprenait à toute vitesse l'interminable route d'Irkoutsk. 90 verstes furent ainsi franchies depuis Touroumov, et le 30 juillet, à 4 heures du soir, Michel Strogoff, insensible à toute fatigue, arrivait à Elamsk. Là, il fallut donner une nuit de repos à son cheval. Le courageux animal n'eût pu continuer plus longtemps ce voyage. À Elamsk, pas plus qu'ailleurs, il n'existait aucun moyen de transport. Pour les mêmes raisons qu'aux bourgades précédentes, voitures ou chevaux, tout manquait. Elamsk, petite ville que les Tartares n'avaient pas encore visitée, était presque entièrement dépeuplée car elle pouvait être facilement envahie par le sud et difficilement secouru par le nord. Aussi, relais de poste, bureau de police, hôtel du gouvernement, était-il abandonné par ordre supérieur, et d'une part les fonctionnaires, de l'autre les habitants en mesure d'émigrer, s'étaient-ils retirés à Kamsk, au centre de la Baraba. Michel Strogoff dut donc se résigner à passer la nuit à Elamsk pour permettre à son cheval de se reposer pendant 12 heures. Il se rappelait les recommandations qui lui avaient été faites à Moscou. Traverser la Sibérie incognito, arriver quand même à Irkoutsk, mais dans une certaine mesure, ne pas sacrifier la réussite à la rapidité du voyage, et par conséquent, il devait ménager l'unique moyen de transport qu'il lui resta. Le lendemain, Michel Strogoff quittait Elamsk au moment où l'on signalait les premiers éclaireurs tartares à 10 verstes en arrière, sur la route de la Baraba, et il s'élançait de nouveau à travers la marécageuse contrée. La route était plane, ce qui la rendait plus facile, mais très sinueuse, ce qui l'allongeait. Impossible d'ailleurs de la quitter pour courir en ligne droite à travers cet infranchissable réseau des étangs et des mares. Le surlendemain, 1er août, 120 verstes plus loin, à midi, Michel Strogoff arrivait au bourg de Spasskoé, et à 2 heures, il faisait halte à celui de Pokrovskoé. Son cheval, surmené depuis son départ d'Elamsk, n'aurait pas pu faire un pas de plus. Là, Michel Strogoff dut perdre encore, pour un repos forcé, la fin de cette journée et la nuit tout entière. Mais repartit le lendemain matin, toujours courant à travers le sol à demi inondé, le 2 août, à 4 heures du soir, après une étape de 75 verstes, il atteignit Kamsk. Le pays avait changé. Cette petite bourgade de Kamsk est comme une île, habitable et saine, située au milieu de l'inhabitable contrée. Elle occupe le centre même de la Baraba. Là, grâce aux assainissements obtenus par la canalisation du Tom, affluent de l'Irtych qui passe à Kamsk, les marécages pestilentiels se sont transformés en pâturages de la plus grande richesse. Cependant, ces améliorations n'ont pas encore tout à fait triomphé des fièvres qui, pendant l'automne, rendent dangereux le séjour de cette ville. Mais c'est encore là que les indigènes de la Baraba cherchent un refuge lorsque les miasmes paludéens les chassent des autres parties de la province. l'émigration provoquée par l'invasion tartare n'avait pas encore dépeuplé la petite ville de Kamsk. Ses habitants se croyaient probablement en sûreté au centre de la Baraba, ou du moins, ils pensaient avoir le temps de fuir s'ils étaient directement menacés. Michel Strogoff, quelque désir qu'il en eût, ne put donc apprendre aucune nouvelle en cet endroit. C'est à lui plutôt que le gouverneur se fût adressé s'il eût connu la véritable qualité du prétendu marchand d'Irkoutsk. Kamsk, en effet, par sa situation même, semblait être en dehors du monde sibérien et des graves événements qu'il troublait. D'ailleurs, Michel Strogoff ne se montra que peu ou pas. Être inaperçu ne lui suffisait plus. Il eût voulu être invisible. L'expérience du passé le rendait de plus en plus circonspect pour le présent et l'avenir. Aussi se tint-il à l'écart et, peu soucieux de courir les rues de la bourgade, ne voulut-il même pas quitter l'auberge dans laquelle il était descendu. Michel Strogoff aurait pu trouver une voiture à Kamsk et remplacer par un véhicule plus commode le cheval qui le portait depuis Omsk. Mais après mûre réflexion, il craignit que l'achat d'un tarantas n'attirât l'attention sur lui, et tant qu'il n'aurait pas dépassé la ligne maintenant occupée par les Tartares, ligne qui coupait la Sibérie à peu près suivant la vallée de l'Irtych, il ne voulait pas risquer de donner prise aux soupçons. D'ailleurs, pour achever la difficile traversée de la Baraba, pour fuir à travers le marécage, au cas où quelque danger lui menaçait trop directement, pour distancer des cavaliers lancés à sa poursuite, pour se jeter s'il le fallait même au plus épais du fourré des joncs, un cheval valait évidemment mieux qu'une voiture. Plus tard, au-delà de Tomsk ou même de Krasnoïarsk, dans quelques centres importants de la Sibérie occidentale, Michel Strogoff verrait ce qu'il conviendrait de faire. Quant à son cheval, il n'eut même pas la pensée de l'échanger contre un autre. Il était fait à ce vaillant animal. Il savait ce qu'il en pouvait tirer. En l'achetant à Omsk, il avait eu la main heureuse, et en l'amenant chez ce maître de poste, c'était un grand service que lui avait rendu le généreux Moudjik. D'ailleurs, si Michel Strogoff s'était déjà attaché à son cheval, celui-ci semblait se faire peu à peu aux fatigues d'un tel voyage, et à la condition de lui réserver quelques heures de repos, son cavalier pouvait espérer qu'il irait jusqu'au-delà des provinces envahies. Donc, pendant la soirée et pendant la nuit du 2 au 3 août, Michel Strogoff resta confiné dans son auberge à l'entrée de la ville, auberge peu fréquentée et à l'abri des importuns ou des curieux. Brisé par la fatigue, il se coucha après avoir veillé à ce que son cheval ne manquât de rien. Mais il ne put dormir que d'un sommeil intermittent, trop de souvenirs, trop d'inquiétudes l'assaillaient à la fois. L'image de sa vieille mère, celle de sa jeune et intrépide compagne, laissée derrière lui, sans protection, passait alternativement devant son esprit et s'y confondait souvent dans une même pensée. Puis il revenait à la mission qu'il avait juré de remplir. Ce qu'il voyait depuis son départ de Moscou lui en montrait de plus en plus l'importance. Le mouvement était extrêmement grave et la complicité d'Ogareff le rendait plus redoutable encore. Et quand ses regards tombaient sur la lettre revêtue du cachet impérial, cette lettre qui sans doute contenait le remède à tant de maux, le salut de tout ce pays déchiré par la guerre, Michel Strogoff sentait en lui comme un désir farouche de s'élancer à travers la steppe, de franchir à vol d'oiseau la distance qui le séparait d'Irkoutsk, d'être un aigle pour s'élever au-dessus des obstacles, d'être ouragan pour passer à travers les airs avec une rapidité de 100 verstes à l'heure, d'arriver enfin en face du grand-duc et de lui crier « Altesse !» de la part de Sa Majesté le Tsar. Le lendemain matin, à 6 heures, Michel Strogoff repartit avec l'intention de faire dans cette journée les 80 verstes qui séparent Kamsk du hameau Dubinsk. Au-delà d'un rayon de 20 verstes, il retrouva la marécageuse Baraba qu'aucune dérivation n'asséchait plus et dont le sol était souvent noyé sous un pied d'eau. La route était alors difficile à reconnaître, mais grâce à son extrême prudence, cette traversée ne fut marquée par aucun accident. Michel Strogoff, arrivé à Oubinsk, laissa son cheval reposer pendant toute la nuit, car il voulait, dans la journée suivante, enlever sans débrider les 100 verstes qui se développent entre Oubinsk et Ikoulskoé. Il partit donc dès l'aube. Mais malheureusement, dans cette partie, le sol de la Baraba fut de plus en plus détestable. En effet, entre Oubinsk et Kamakova, les pluies très abondantes quelques semaines auparavant s'étaient conservées dans cette étroite dépression comme dans une imperméable cuvette. Il n'y avait même plus solution de continuité à cet interminable réseau des mares, des étangs et des lacs. L'un de ces lacs, assez considérable pour avoir mérité d'être admis à la nomenclature géographique, ce Chang, chinois par son nom, dut être côtoyé sur une largeur de plus de 20 verstes et au prix de difficultés extrêmes. De là quelques retards que toute l'impatience de Michel Strogoff ne pouvait empêcher. Il avait d'ailleurs été bien avisé en ne prenant pas une voiture à Kamsk, car son cheval passa là où aucun véhicule n'aurait pu passer. Le soir, à 9 h, Michel Strogoff, arrivé à Ikoulskoé, s'y arrêta pendant toute la nuit. Dans ce bourg perdu de la Baraba, les nouvelles de la guerre faisaient absolument défaut. Par sa nature même, cette portion de la province placée dans la fourche que formaient les deux colonnes tartares en se bifurquant l'une sur Omsk, l'autre sur Tomsk, avait échappé jusqu'ici aux horreurs de l'invasion. Mais les difficultés naturelles allaient enfin s'amoindrir, car s'il n'éprouvait aucun retard, Michel Strogoff devait, dès le lendemain, avoir quitté la Baraba. Il retrouverait alors une route praticable lorsqu'il aurait franchi les 125 verstes qui le séparaient encore de Kolyvan. Arrivé à ce bourg important, il ne serait plus qu'à une égale distance de Tomsk. Il prendrait alors conseil des circonstances et très probablement il se déciderait à tourner cette ville que Féofarkhan occupait si les nouvelles étaient exactes. Mais si ces bourgs tels qu'Ikoulskoé, tels que Karginsk, qu'il dépassa le lendemain, étaient relativement tranquilles grâce à leur situation dans la Baraba où les colonnes tartares eussent difficilement manœuvré, n'était-il pas à craindre que sur les rives plus riches de l'Obi, Michel Strogoff, n'ayant plus à redouter d'obstacles physiques, n'eût tout à appréhender de l'homme? Cela était vraisemblable. Toutefois, s'il le fallait, il n'hésiterait pas à se jeter hors de la route d'Irkoutsk, à voyager alors à travers la steppe. Il risquerait évidemment de se trouver sans ressources. Là, en effet, plus de chemin tracé, plus de villes ni de villages, à peine quelques fermes isolées ou simples huttes de pauvres gens, hospitaliers sans doute, mais chez lesquels se trouverait à peine le nécessaire. Cependant, il n'y aurait pas à hésiter. Enfin, vers 3h30 du soir, après avoir dépassé la station de Kargatsk, Michel Strogoff quittait les dernières dépressions de la Baraba et le sol dur et sec du territoire sibérien sonnait de nouveau sous le pied de son cheval. Il avait quitté Moscou le 15 juillet, donc ce jour-là, 5 août, en y comprenant plus de 70 heures perdues sur les bords de l'Irtych, 21 jours s'étaient écoulés depuis son départ. 1500 verstes le séparaient encore d'Irkoutsk.